Sud Radio, il est 3h. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats.
Si vous me demandiez, par exemple, si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître les réseaux sociaux.
Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras.
Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre, effectivement. Bas bruit, signaux faibles ou au contraire, signaux très forts, du sang, de la fureur et des larmes. Mais on va parler effectivement d'abord de ce projet adopté par le Parlement britannique d'envoyer les migrants y entrer illégalement sur le royaume au Rwanda. Oui, au Rwanda. Pourquoi ? Comment ? On va en parler avec Patrick Stefanini, l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Qu'est-ce qu'il fait de dire, et c'est en tout cas... C'est vraiment digne de discussion. Le problème des migrants, le problème des illégaux, le problème des OQTF chez nous est posé de façon récurrente depuis des années. Et ben voilà, l'Angleterre a décidé d'envoyer effectivement les illégaux, les clandestins au Rwanda avec l'accord du gouvernement rwandais. Pourquoi ? On va en parler. On va aussi parler évidemment de ce jeu qui vient de paraître qui s'appelle La Traversée de Paris. Évidemment, hommage à Bourville et à Jean Gabin. C'est assez amusant. Avant les Jeux Olympiques, le parcours du combattant pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons, on va en parler. C'est comme un Monopoly avec des dés, des cartes, des questions. Qu'est devenu Paris ? Eh ben, c'est quelque chose qui est très bien montré. Et puis après, l'habituelle attaque charge sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir en seconde partie de l'émission Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle qui est le petit-fils du général de Gaulle, qui est le fils de l'amiral Philippe de Gaulle qui vient de décéder, et qui va nous parler effectivement de sa fondation et de ce qu'il compte faire et des engagements qu'il va prendre. À tout de suite, accrochez vos ceintures.
Écoutez Sud Radio Rouen en DAB+.
Sud Radio.
D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouve seul assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Endroits deux fois trop grands, t'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient. Tu l'oublies à longueur de jour. les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent. Il compte les chances qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a des couples qui se défendent sur les larmes de ton plafond. C'est toujours le même film qui passe, toute seule au fond de l'espace. T'as personne devant, personne.
Vêtements qui respectent votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Après 2 ans de discussion, les deux chambres du Parlement britannique ont voté un texte controversé, il faut dire, sur l'immigration. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce texte, adopté, je le répète, vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire, sur le royaume de Grande-Bretagne. Mesure drastique, mesure forte. De quoi s'agit-il ? Bonjour.
Bonjour.
Philippe, Patrick Stefanini, excusez-moi. Mais auparavant, on va entendre quelques très beaux mots d'un chanteur rwandais.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé.
Parce qu'on vient de loin, Corneille, chanteur rwandais, effectivement, dont la famille avait été exterminée dans le génocide, il y a déjà un peu plus de 20 ans, le génocide qui a tué près d'un million de morts au Rwanda. Et voici que, effectivement, un nouveau traité entre Londres et Kigali, la capitale du Rwanda, qui prévoit le versement de sommes substantielles au Rwanda en échange de l'accueil des migrants, évidemment, accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Et le gouvernement britannique prévoit de rémunérer à hauteur de 3 500 € les demandeurs d'asile qui, de manière volontaire, souhaitent être délocalisés au Rwanda. Alors, c'est quand même une première, je crois, Patrick Stefanini.
Sous cette forme, c'est une première. Quel est le problème qui est commun, au fond, au Royaume-Uni et aux pays de l'Union européenne, même si aujourd'hui, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne ? Notre problème commun, c'est que nous faisons face, depuis plusieurs années, à une augmentation très importante du nombre des demandeurs d'asile. Et l'expérience prouve que, dans l'immense majorité des pays de l'Union européenne, comme au Royaume-Uni, une très forte majorité des demandeurs d'asile sont définitivement déboutés. C'est-à-dire que leur demande n'aboutit pas.
Ah oui, alors qu'on prétend le contraire. Non, certains prétendent le contraire.
Très forte proportion oui. N'aboutit oui. Pas. Pour la France, environ 60% des demandeurs d'asile sont définitivement déboutés. Problème, problème, la plupart de ces demandeurs d'asile sont arrivés sur le territoire français ou sur le territoire du Royaume-Uni. Et lorsqu'ils sont définitivement déboutés, on éprouve les plus grandes difficultés à les faire partir. Et donc, tout se passe comme si obtenir le statut de réfugié ou ne pas l'obtenir débouchait en fait sur le même résultat, à savoir le maintien de l'étranger concerné sur le territoire des États de l'Union européenne ou sur le territoire du Royaume-Uni.
Oui, ça, vous voulez dire, pardon, Stéphanini, c'est important parce que beaucoup de gens croient qu'effectivement, on ne déboute pas. En fait, ils sont déboutés, mais ça ne sert à rien puisqu'ils restent là. C'est
absolument.
Ça.
Alors bien sûr, ceux qui obtiennent le statut de réfugié obtiennent de plein droit un titre de séjour, ils ont la possibilité de travailler, etc. etc. Les autres basculent dans la clandestinité, mais ils ne quittent pas notre territoire. Alors, pour faire face, pour mettre un terme à cette situation, le gouvernement britannique, il y a 2 ans, dans la personne d'un Premier ministre un peu baroque, donc peut-être que la solution est elle-même baroque, mais c'était Boris Johnson.
Ouais.
Boris Johnson a eu l'idée de dire « Je vais négocier avec un État du Commonwealth ». Je rappelle que la Grande-Bretagne, le roi d'Angleterre, c'est le patron du Commonwealth. Donc il y a un lien entre tous ces pays.
Jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler.
Il y a un lien entre tous ces pays. Et donc Boris Johnson a entrepris de négocier avec le Rwanda un accord pour que les demandeurs d'asile soient renvoyés au Rwanda où leur demande d'asile sera examinée. Alors, le parcours législatif a été compliqué, le parcours judiciaire aussi. La Cour suprême a invalidé une première fois le texte. Et ça a conduit le Premier ministre britannique à négocier un traité en bonne et due forme, vous l'avez dit dans votre introduction, avec le Rwanda. Et dans ce traité, le Rwanda a pris un engagement juridique absolument essentiel. Il s'est engagé à ne pas refouler les demandeurs d'asile vers leur pays d'origine.
C'est ça, c'est très important.
Et ça, cet engagement, c'est au fond la principale, pour ne pas dire la seule obligation juridique forte que nous impose la Convention de Genève. Nous avons tous, le Royaume-Uni, comme tous les pays de l'Union européenne et comme l'immense majorité des pays du monde, nous avons adhéré à la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. C'est un texte d'une très grande valeur juridique. C'est un texte fondateur pour ce qui est de l'asile. Eh bien, cette convention, elle nous impose quelque chose de très précis, c'est que lorsqu'un demandeur d'asile arrive, nous devons examiner sa demande, lorsqu'il obtient le statut de réfugié, évidemment, nous interdisons de le renvoyer dans son pays d'origine où sa vie ou sa liberté serait menacée. Alors simplement, une fois qu'on a dit ça, rien n'interdit de mon point de vue en droit, rien n'interdit qu'un pays comme le Royaume-Uni ou des pays de l'Union européenne confie le traitement de la demande d'asile à un autre pays. Et c'est ça le sens de l'accord qui est intervenu entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Et alors, cher ami, transposons à l'Union européenne.
Oui.
L'Union européenne, elle a adopté il y a à peu près 3 semaines, je crois que c'était le 10 avril, elle a adopté le pacte européen sur l'immigration et sur l'asile. Dans ce pacte, il y a une disposition qui ressemble beaucoup à ce que vient de faire le Royaume-Uni.
C'est laquelle,
C'est ce qu'on appelle le pays tiers sûr, c'est-à-dire la possibilité pour les États de l'Union européenne, lorsqu'un demandeur d'asile se présente à leurs frontières, de ne pas examiner sa demande et de le renvoyer dans un État tiers sûr.
Dans un pays sûr, c'est
dans,
ça pays
dans tiers, un État tiers sûr, pour que sa demande y soit examinée. Alors qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que cet État, comme le Rwanda, soit signataire de la Convention de Genève, ou en tout cas s'engage à ne pas appliquer le principe de non-refoulement. Sinon, nous commettrions une vilenie juridique.
Tout à fait, oui.
Mais dès lors que cet État tiers sûr s'engage à appliquer le principe de non-refoulement, ensuite il va examiner la demande d'asile, il va la traiter. Si l'intéressé obtient le statut de réfugié, il obtient le statut de réfugié.
Et s'il ne l'obtient pas, alors qu'est-ce qui se passe dans ce pays sûr?
S'il ne l'obtient pas, il appartiendra, ça veut dire que s'il ne l'obtient pas, ça veut dire qu'on considère qu'il n'est pas menacé dans son pays d'origine. Donc on a la possibilité de le renvoyer.
De le renvoyer dans son pays d'origine.
Bien sûr.
Mais il faut absolument assurer, donc, pour ce pays tiers, puisque c'est lui qui éventuellement ferait l'enquête,
oui,
disons,
oui,
qu'on soit sûr qu'il ne soit pas maltraité dans son pays d'origine.
Bien sûr.
C'est ça.
Donc ça suppose, ça suppose que, si on prend le cas des pays de l'Union européenne, ça suppose que les pays de l'Union européenne signent même des accords avec chacun des États tiers sûrs pour s'assurer que les choses se passent bien. Alors pourquoi c'est un progrès ? Parce que je voudrais dire que je pense que c'est un progrès. Souvenez-vous, 2015, l'afflux des demandeurs d'asile en Europe. Que fait Mme Merkel ? Elle négocie directement avec M. Erdogan,
oui, avec
le président de la Turquie.
Oui, oui.
Et elle négocie un accord basique, c'est-à-dire qu'elle demande à M. Erdogan, moyennant finance, de ne pas encourager les migrants à franchir le bras de mer qui sépare la Grèce de la Turquie de la Grèce, et de garder les migrants chez lui. Et moyennant quoi, cet accord est toujours en application, et chaque année, l'Union européenne consacre des sommes non négligeables, plusieurs milliards d'euros.
Des milliards, oui, il faut le dire, des milliards d'euros.
Bon, et la Turquie est aujourd'hui un des pays qui accueille le plus de réfugiés, le plus de migrants, qui désireraient aller en Europe, mais qui n'y vont pas parce que la Turquie les en empêche. Ça, c'est une décision de 2015, mais voyez bien que c'est assez frustre. Parce qu'au fond, ça ne garantit pas aux intéressés l'examen de leur demande d'asile. Ils sont dans des camps.
Oui. La Turquie ne regarde pas.
Mais la Turquie n'examine pas leur situation.
Bien
Alors
sûr.
Que le progrès que constitue l'introduction dans le pacte européen sur l'immigration et sur l'asile de la notion d'État tiers sûr, c'est que désormais,
d'accord,
pour en rester sur cet exemple, l'Allemagne pourra renvoyer en Turquie des demandeurs d'asile, mais avec l'assurance que la Turquie examinera leur demande d'asile et que, bien sûr, elle respectera le principe de non-refoulement. Et pourquoi on en est arrivé là, Monsieur Berkoff ? Il faut que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent bien pourquoi on en arrive là. Parce que l'immense majorité des demandeurs d'asile, ils n'arrivent pas directement de leur pays d'origine, en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni. Ils passent par des pays de transit.
Bien sûr.
Certains de ces pays de transit ne sont pas des pays sûrs. Sont des pays dévastés par des guerres civiles.
Ou des dictatures, ou autre chose.
Dominés par des dictatures.
Ouais.
Donc ce sont des pays qui ne sont pas recommandables du point de vue des droits de l'homme. Mais à l'inverse, il y a des pays de transit qui sont des pays signataires de la Convention de Genève, ou qui sont des pays qui, sans signer la Convention de Genève, appliqueront le principe de non-refoulement. Mmh. Et donc, la question qu'on peut se poser, et que se sont posés les États de destination, c'est-à-dire les États de l'Union européenne, c'est comment se fait-il que ces migrants qui sont passés par 1, 2, 3, 4 pays avant d'arriver chez nous, pourquoi ils n'ont pas profité de la possibilité qu'ils avaient de demander l'asile dans les pays de transit. Voilà la question fondamentale qui est à l'origine
à la fois
de l'initiative britannique et de ce qui figure aujourd'hui dans le pacte européen.
Mais il y a deux choses, justement, deux questions que vos propos soulèvent immédiatement. Primo, vous le savez très très bien que s'ils viennent et ils visent tel ou tel pays européen ou l'Angleterre, c'est parce qu'ils vont y trouver un certain nombre d'avantages, que ce soit les avantages sociaux et compagnie. Et on les comprend. Si on était à leur place, on ferait exactement la même chose. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, par rapport à l'Europe, est-ce que, à votre avis, si, mettons, que l'Europe se dit, tiens, ce que fait effectivement le gouvernement britannique, même si Brexit il y a eu, on pourrait le faire. Est-ce qu'il, à votre avis, est-ce que l'Europe pourrait s'entendre pour une fois sur un ou deux ou trois pays, ou, à votre avis, chaque gouvernement européen devrait négocier son ou ses pays sûrs ?
Ça dépend de l'histoire de chacun de nos pays. Dans l'Union européenne, aujourd'hui, pour l'essentiel, le seul pays qui a eu une grande histoire coloniale, c'est la France.
Mmh.
Bon, l'autre pays, c'était le Royaume-Uni.
Bien sûr, mais
il est sorti. Alors, l'Allemagne a eu à un certain moment des colonies, mais pas très longtemps. L'Italie aussi, mais pas très longtemps, et beaucoup moins nombreuses que la France.
Tout à fait.
Bon, donc ça veut dire que la France aurait la possibilité de négocier avec des pays de transit. Je pense par exemple au Maroc. Mmh. Je pense par exemple à la Tunisie. Voilà deux pays qui sont situés sur deux des principales routes migratoires à destination de l'Union européenne et de la France. la route migratoire qui passe par la côte ouest de l'Afrique, donc qui passe par le Maroc,
et, la côte
et puis
est.
La route migratoire qui va de Libye ou de Tunisie vers l'Italie.
Tout à fait.
Mais ensuite, les migrants viennent en France. Donc nous pourrions, nous, négocier avec des pays comme le Maroc ou avec des pays comme la Tunisie ou encore avec des pays comme le Sénégal. Bon, l'Italie pourrait négocier avec la Libye parce qu'il y a eu des relations historiques
Bien sûr.
Le passé entre
Mais est-ce que vous croyez que ces pays-là, aujourd'hui, soyons réalistes, ont envie d'accueillir, même contre monnaie sonnante et trébuchante, ces milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de migrants?
Vous posez la bonne question et je la double d'une autre bonne question, si j'ose dire. C'est est-ce que tous ces pays-là sont suffisamment clairs en matière de respect de la Convention de Genève. Par exemple, tout le monde sait que la Libye est aujourd'hui encore dévastée par une situation de guerre civile, ou qu'en tout cas avec des troubles intérieurs considérables. Donc je n'ai pas pris, moi, l'exemple de la Libye. Je vous ai parlé du Maroc ou de la Tunisie. J'ai pas pris l'exemple de la Libye.
Non, mais c'est
pour
ça.
Et puis, Monsieur Berkoff, prenons l'exemple de l'Italie. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Italie? Elle a négocié un accord, en quelque sorte en anticipation par rapport au pacte, avec l'Albanie. Donc on peut aussi négocier des accords avec des pays tiers qui sont sur le continent européen, qui ne sont pas aujourd'hui dans l'Union européenne, mais qui sont candidats à l'Union européenne.
Oui, Meloni a travaillé là-dessus.
Et Meloni, il se trouve que l'Italie, c'est très proche de l'Albanie, et puisque c'est des deux côtés de la Méditerranée, si j'ose dire, enfin de l'Adriatique. L'intuition de Meloni, ça a été que comme l'Albanie est candidate à l'Union européenne, elle allait donner des gages pour obtenir sa future adhésion. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est la solution rêvée. Je ne dis pas que c'est la seule solution.
Est-ce qu'il y a une solution rêvée? C'est notre problème.
Non, mais il faut faire, en matière de maîtrise de l'immigration, il faut faire flèche de tout bois. Il y a une autre disposition dans le pacte européen qui est très intéressante, que la France applique déjà. Mais nous étions un des rares pays de l'Union européenne à le faire. C'est l'idée que lorsqu'un migrant arrive à notre frontière extérieure, par exemple, lorsqu'un migrant arrive dans un aéroport et qu'il demande l'asile, eh bien, on ne le laisse pas rentrer sur le territoire national. Si vous allez à Roissy, par exemple, à Roissy, à l'aéroport de Roissy, il y a une zone internationale. Avant que vous ne franchissiez les contrôles de police, le migrant qui arrive, qui n'a pas de document qui justifie qu'il rentre en France, il reste dans cette zone internationale.
C'est vrai, mais enfin...
On le maintient dans cette zone pour examiner sa demande.
Oui.
Et s'il est débouté, la compagnie aérienne qui l'a acheminé,
jusqu'ici,
en quelque sorte illégalement en France, a l'obligation de le raccompagner dans son pays
d'origine. C'est vrai, cher Patrice Stefanini, mais ce n'est pas... Il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce de venir par Roissy ou par Orly.
C'est vrai.
Vous en conviendrez. On va continuer quand même à parler, c'est très intéressant, après cette petite pause.
Oui, et puis vous aurez la parole, évidemment, 0826-300-300 pour réagir, pour témoigner ou pour poser vos questions. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Tarbes.
102.
Sud Radio.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme mes toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie, je crois bien que je l'ai vue. Avec lui, elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout.
fout, se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel un soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort tout.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Patrick Stefanini pour parler de cette décision de la Grande-Bretagne d'envoyer les migrants illégaux au Rwanda avec l'accord évidemment du Rwanda. Enfin, on en a parlé. Je crois qu'il y a déjà une auditrice.
Ça fait réagir, c'est Angèle qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Angèle.
Bonjour Angèle.
Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je voulais réagir. J'ai deux commentaires. Le premier commentaire, je vais toujours très vite.
Allez-y.
Le premier commentaire, c'est de dire que les Occidentaux, il faut toujours qu'ils se débrouillent à faire gérer leurs problèmes par les autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voudrais faire de la politique science-fiction. C'est-à-dire que si on se projette, si on projette les intentions, j'en sais rien, moi.
Oui, allez-y,
mais
allez-y.
Ça pourrait l'être. Ce serait de faire des découpages de pays en pays pour prison, pays pour gérer les migrants, pays pour gérer l'énergie, pays pour faire ci, pays comme Cayenne, pays pour envoyer, je sais pas, tous les gens dont on ne veut pas. Et on pourrait très bien, ça ferait des précédents. Des précédents où on pourrait très bien prendre des individus, des manifestants, des complotistes, des n'importe qui, et on les envoie dans un autre pays. C'est rigolo quand même.
Oui, je ne sais pas si c'est rigolo, mais votre première partie est intéressante, Angèle, c'est vrai. Patrick Stefanini, est-ce que c'est un moyen, parce que c'est vrai qu'on se dit au départ, après tout, il faut quand même résoudre ce problème. Et puis, ce que dit Angèle quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des solutions par procuration, ou alors c'est la seule solution, peut-être
non,
ou
les guerres,
non, mais madame,
guerres,
oui. Madame a pour partie raison, et il y a une autre solution. C'est la solution qui est mise en œuvre, par exemple, en Grèce, ou qui est mise en œuvre dans nos aéroports, notamment à Roissy ou à Orly, et sans doute à l'aéroport de Marseille-Marignane. Lorsqu'un étranger arrive sur notre territoire, qu'il est dépourvu des documents lui permettant d'entrer...
Oui, qu'il est sans papier. Enfin,
qu'il est sans papier, en tout cas sans papier valable.
Oui.
On ne le renvoie pas dans un autre pays, mais on le maintient à l'entrée sur notre territoire, dans une zone qu'on appelle une zone internationale. Il en existe dans tous nos aéroports. Et il est maintenu à l'intérieur de cette zone pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile. Mmh. Donc son droit à voir sa demande d'asile examinée est respecté. Mmh. Et au terme de l'examen de sa demande d'asile, en général ça prend quelques jours, si l'intéressé est reconnu comme réfugié, ou en tout cas est reconnu comme éligible à l'asile, il rentre. Et s'il ne l'est pas, la compagnie aérienne qui l'a acheminé alors qu'elle savait, puisqu'elle doit faire un contrôle à l'embarquement,
oui, serait responsable.
Qu'il ne disposait pas des documents nécessaires, va le réacheminer dans son pays d'origine. Donc vous voyez, madame, Nous ne nous reposons pas exclusivement sur les autres pour résoudre ce problème. Nous avons nos propres moyens sur notre territoire de le faire.
Nous sommes d'accord, mais ça, c'est pour le. On a parlé des aéroports, mais imaginez un peu ce qui se passe. Et on voit très bien tous les reportages aujourd'hui sur la route des migrants, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire plus, qui vont, vous savez, sur les plages, qui arrivent sur les plages, qui arrivent en dehors même des zones portuaires, etc.
Mais monsieur,
vous imaginez examiner. Examiner les demandes de chacun.
Mais, monsieur Berkoff, c'est ce que fait la Grèce. La Grèce, la frontière maritime de la Grèce, les îles de la mer Égée, elles sont à 1 km ou 1 km et demi des côtes de la Turquie. Donc vous voyez qu'il ne faut pas très longtemps pour passer en petit bateau de la Turquie pour aller par exemple sur l'île de Lesbos. Eh bien, la Grèce a créé sur l'île de Lesbos un centre que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est un centre très moderne, avec un hôpital, avec une école. Et donc les migrants qui arrivent à Lesbos, ils sont hébergés dans ce centre et ils y restent jusqu'au terme de l'examen de leur demande.
D'accord.
Et là aussi, soit on considère que leur demande d'asile est valable et ils sont transférés.
Soit ils sont renvoyés,
Non, ils sont transférés, si leur demande d'asile est valable, ils sont transférés sur la partie continentale de la Grèce et sinon ils sont renvoyés en Turquie.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, juste pour terminer, de la solution, évidemment, c'est très loin, la solution australienne? La solution australienne n'est pas applicable à l'Europe.
C'est compliqué parce qu'il faudrait trouver des îles. C'est compliqué. Dispositif qui est sans doute adapté au cas de l'Australie.
Ouais.
C'est un dispositif qui est assez controversé parce que les conditions d'hébergement des étrangers dans les deux îles là de les noms sont quand même, d'après les reportages qui ont pu être faits, difficiles. Alors que je reviens sur l'exemple de Lesbos en Grèce, moi j'ai visité ce centre d'hébergement, il est de très bonne facture.
En fait, ce qu'il y a, c'est de voir si les pays européens s'entendront sur un certain nombre de pays sûrs. Est-ce que la solution Rwanda, effectivement... Et c'est intéressant parce que le Rwanda, effectivement, il y a eu un des plus terribles génocides du XXe siècle. Mais enfin, c'était il y a 25 ans. Maintenant, le Rwanda est considéré comme un pays sûr.
Le Rwanda a tourné la page. Son économie est une des plus dynamiques d'Afrique.
Et ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de personnes.
Et le Rwanda fait partie du Commonwealth, ce qui crée incontestablement un lien avec le Royaume-Uni. Et nous, il faudrait trouver des pays avec lesquels nous avons un lien, mais il en existe.
Et voir aussi si il va y avoir une levée de bouclier absolue d'une opposition aux droits de l'hommiste qui va dire comment, c'est pas possible, c'est scandaleux.
Non mais ça, en opportunité, on peut discuter à l'infini. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est juridiquement soutenable au regard de la Convention de Genève?
Et je crois
vous avoir expliqué que c'était le cas.
Merci beaucoup Patrice Stéphanie.
Merci Patrice Stéphanie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général au ministère de l'immigration.
Sud Radio, André Berkoff.
Ça balance pas mal.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Paris, Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde.
Mais c'est vrai, Paris sera toujours Paris. Paris, c'est tellement fabuleux. La plus belle ville du monde, allez, disons-le. Et surtout en ce moment, Et puis il y a quelqu'un, expert en communication politique, mais sulfureux, qui vient de créer un jeu de société qui s'appelle La Traversée de Paris, qu'on a reçu. La Traversée de Paris, on s'est dit, c'est formidable, c'est vrai, on est à un mois et demi des Jeux Olympiques, alors on va tous aller là-bas, puis des millions de gens vont venir du monde entier pour assister à ces grandes cérémonies, mais alors comment faire? Eh bien, François Bellet a imaginé un guide, mais en forme de jeu, une espèce de monopoly géant sur Paris. Et vous allez voir, décrivez-le avant qu'on fasse parler François Bellet. Esteban Rania, vous avez joué avec Thibaut Sadler à cela. Vous en êtes venu transformé, pratiquement bouleversé. On sent, ils ne tiennent plus, là, ils sont dans un état de totale décomposition. Pourquoi? Comment? C'est quoi ce jeu?
Oui, c'est vrai qu'André, il y a des émissions plus sympathiques et plus faciles à préparer que d'autres. Avec Thibaut Sadler, on s'est attelé, on a reçu le jeu de François Bellet, qui ressemble, on peut le dire, à un jeu de loi pour ceux qui connaissent. Alors, vous avez un plateau avec des dessins vraiment magnifiques. Les graphistes ont fait un travail superbe. Et puis, avec beaucoup d'ironie, beaucoup beaucoup d'humour évidemment, mais qui cache peut-être une part de vérité pour certains Parisiens. Alors vous avez un plateau composé de nombreuses cases, vous jetez un dé et puis vous tombez sur des cases bleues, vertes.
Donc, alors comment s'appellent ces cases? Donnez-nous des exemples. Alors,
je tombe sur une case bleue qui est une case mobilité urbaine.
Oui.
Et donc là... Alors j'ai une remarque de la question, donc je pioche une question bleue.
Oui.
Et ça me dit, alors tiens, route bloquée à cause d'activistes du climat, la main collée à la route, restez sur votre case. Donc je suis bloqué, je peux pas avancer dans...
Ah bon, il y a des routes bloquées comme ça avec des fous du climat qui collent leurs mains. Oui.
Exactement.
Autre chose.
Je tombe sur une case verte, alors j'ai tiré le dé, j'ai fait 3, je tombe sur une case verte, et là c'est une case question. Donc je vous pose une question, André, chers auditeurs, vous pouvez répondre. En 2022, combien de chantiers étaient encore en cours dans les rues de la capitale? Réponse A, près de 5000. Réponse B, près de 8000. Ou réponse C, près de 10000. Est-ce que vous avez une idée?
3000, 5000 ou...
5000, 8000 ou 10000?
Ou 10000. Je dirais 8000.
Eh bien, c'est 10000.
10000.
Ouais, donc là, vous avez perdu, vous restez sur votre case. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé, François Bellé?
C'était parfait. C'était parfait. Quelle entrée en matière.
Alors, François Bellé, comment ça vous est venu? Ça vous est venu comment, cette enfin, on peut comprendre, c'est vrai qu'en regardant ça, quand j'ai vu ça, je veux dire. C'est formidable parce que c'est très drôle et encore une fois vous allez beaucoup vous amuser. C'est une description de Paris, je dois dire, d'un réalisme saisissant. Et vous êtes dit voilà, je vais un peu montrer, faire un jeu et puis rire de cette espèce de d'hallucinante gestion de Paris.
Ouais, en fait, je dirais que l'idée, elle s'est fait un peu en deux temps. Le premier temps, c'est que donc là, c'est vraiment une expérience du réel. J'étais dans l'enfer des embouteillages de la porte Maillot.
Ouais.
Et donc j'étais dans ma voiture et je me rendais à un rendez-vous et je me suis retrouvé à l'intersection de la modernité, c'est-à-dire entre les travaux, les embouteillages, les altercations et puis cet esthétisme violent avec les travaux, les rénovations. Et puis forcément au volant de sa voiture, eh ben soit on cogite, soit en tout cas on s'agite. Et j'ai commencé à me dire traverser Paris est devenu une épreuve. Et voilà,
clair.
J'avais les trois mots-clés, les clés, donc c'était la traversée de Paris, qui est devenue donc l'épreuve olympique
qui est un grand
la
film
plus difficile.
Et qui est un très grand film, vous vous rappelez.
Et étant adepte du détournement sur le plan publicitaire
bien
et communicationnel,
sûr.
La traversée de Paris, j'ai repris ça et j'en ai fait mienne. Et je dirais que j'ai validé cette idée-là aussi avec le contexte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de contenu produit sur une ville. Paris est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas autant de New York, de Sydney ou de Londres, c'est Paris. Paris, c'est devenu un sujet. Et donc, je me dis de fixer l'époque, de photographier l'époque dans ce quart de ce premier quart du XXIe siècle, ben, il fallait le faire, donc je l'ai fait.
Oui, mais alors, justement, vous l'avez photographié, mais de quelle manière, hein? Pour le meilleur et pour le pire, moi, je regarde, justement, les découvertes. Découvertes, par exemple, découvertes touristiques, hein? Démonstration du maniement de la machette par un Maudou. C'est quoi un Maudou, d'ailleurs?
Oui, ça, c'est les vendeurs de crack.
D'accord.
Il y en a un peu partout dans Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de passer de case en case, et de vivre j'ai appelé ça des découvertes touristiques, mais finalement ce sont des épreuves de la vie urbaine contemporaine.
Bien sûr, non mais c'est par antiphrase que vous avez appelé
des
découvertes touristiques.
Donc c'est des attaques de rats, c'est des coupures de gaz, et en fait tout ce qui est écrit là, en fait c'est pas forcément une caricature, c'est vraiment une photographie, parce qu'en fait tout a été vécu, c'est des choses que et en fait j'aurais pu en faire un livre. D'habitude, j'écris des livres, des essais, mais j'ai trouvé que par le prisme du jeu, c'était plus intéressant,
et
plus amusant.
C'est un jeu vraiment, d'ailleurs, mais c'est intéressant parce que, quand même, Paris, la plus belle ville du monde, Paris, 1500 ans d'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai, tir de mortier contre des consommateurs de crack, menace insistante devant une salle de shoot, chantier urbain en vrac laissé en jachère, alors ça c'est formidable, quartier plongé dans le noir après une coupure de courant, embrouille avec un vendeur de billets à la sauvette, rencontre fortuite avec un plug géant, et oui, ça se rappelle la place Vendôme. Hein.
Exactement.
Voilà. Et mouvement de foule dans un centre commercial. Voilà, c'est vraiment... en fait, c'est à la fois extrêmement ironique, mais vous êtes dur sur Paris. Hein, parce que Paris est une jungle, quand même. Quand on voit votre jeu, on se dit, là, c'est devenu la jungle.
Non, mais pour moi, j'ai eu une approche naturaliste des choses, donc j'ai voulu faire... j'aurais pu faire un petit texte écrit dessus.
Très drôle.
Mais alors, ça, c'est la dimension, je dirais, satirique, polémique, mais presque photographique de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que, certes, on en ressort énervé, de ce jeu, mais aussi on en sort informé. Donc il y a le quiz avec les fameuses cartes Paris Tragique.
Ouais.
Et là, c'est vraiment un quiz à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur la ville de Paris. Donc là, on a cité les chantiers, mais par exemple sur le stationnement, qui est un vrai sujet, un autre fait marqueur de l'époque. Combien de FPS, vous savez, les forfaits post-stationnement, bon, ont-ils été dressés à Paris en 2022? 2 millions, 3 millions ou 5 millions?
5 millions.
Bravo André.
5 millions.
Et tout ça, ça pose question derrière.
Non, mais tout à fait. Non, mais j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des informations. Chaque carte donne une information. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple comme ça, vous devez en avoir. Alors, c'est très intéressant de savoir combien de départements français ont refusé d'accueillir le passage payant de la flamme olympique. C'est 7, Esteban. 7, 17 ou 37?
Je dirais 17.
17. En fait, 37.
Ah oui,
voilà.
37, c'est absolument. Alors là, c'est magnifique parce que ça, on connaît tous, les Parisiens et tous les Français qui viennent à Paris. Quel est le temps moyen passé chaque jour par les Parisiens dans les transports en commun? 32 minutes, 42 minutes, 52 minutes.
Ah, je dirais 42 minutes.
52 minutes. Parce que à chaque fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois, c'est le maximum qui est juste, quoi.
Bah, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait quand même attention que ce ne soit pas toujours la réponse C qui revienne.
Bien sûr.
Mais effectivement, les chiffres sont là et chacun après interprétera. En fonction de là où il se place, ces informations là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu. Vraiment de société, voilà. Et j'ajoute le vraiment parce que je voulais redonner un peu de sociétal, un peu de sociologie au genre. Et donc le jeu de société, bon bah là, on apprend des choses sur cette mutation des villes. C'était intéressant pour moi de saisir l'époque.
Alors, André, j'ai pas précisé, dans la boîte, il y a des cartes de santé mentale. Avec quelques mots dessus, donc il y a sensation d'oppression, fatigue mentale extrême, transpiration excessive, accélération du rythme cardiaque, etc., etc. À quoi elles servent et pourquoi ces mots?
Alors, ces cartes-là visent à altérer la santé mentale du joueur au cours de la partie. Si on en a 3, c'est fini. La partie s'arrête pour celui qui en a 3 et là, il faut qu'il fuit Paris au plus vite. Donc c'est un jeu intéressant parce que d'abord, on n'est pas sûr de finir le jeu.
Ouais.
Ça peut se terminer en 5 minutes.
Êtes trop stressé, trop atteint, voilà. Ça va, vous quittez, quoi.
Et puis après, bah voilà, on enchaîne. Sensation d'oppression, crise d'hystérie, impression de devenir fou et dégoût de la vie urbaine.
Et oui.
Donc voilà, c'est un jeu de 2, 4 à 6 joueurs et qui mêle. À la fois un travail presque d'essayiste, parce que bon, il fallait chercher un peu de documentation et essayer de trouver un angle.
Bien sûr.
Et puis aussi un travail très artistique.
Très
avec
belle,
un dessinateur
et très 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 beau dessin. Bah écoutez, en tout cas voilà, c'est un Monopoly, un Paripoly, un jeu de loi parisien. Mais ça, vous savez, c'est toujours pareil, c'est Jean Cocteau qui parlait des miroirs qui réfléchissent. Et nous, on a décidé d'en parler, et c'est vraiment je vous le recommande, ce jeu, La Traversée de Paris, parce que, eh ben, c'est un miroir. C'est un miroir de ce qui se passe dans une mégalopole, dans une grande ville, dans l'une des plus belles des grandes villes du monde, mais il y a aussi, effectivement, ce qu'on appelle le côté, non pas caché de la tapisserie, mais les trous dans la raquette, et les trous dans la raquette, ils sont très, très, très importants. Merci.
Et évidemment,
merci.
Si vous n'êtes pas parisien, vous pouvez quand même jouer au jeu de société.
Évident.
Où c'est qu'on peut le retrouver?
Eh ben, on peut le retrouver sur latraversedeparis.fr, sur toutes les plateformes numériques, mais aussi chez les bouquinistes et les boutiques de souvenirs de Paris. Voilà.
Parfait. Eh ben, écoutez, voilà. On dit ça aussi pour les touristes, hein, s'ils ont envie de voir, traduire en anglais un peu partout. Voilà. Ils auront comme ça un avant-goût de ce qui va se passer au moment des Jeux Olympiques.
Merci beaucoup,
merci
à vous d'avoir été avec nous.
Sud Radio Carcassonne.
104.7.
Sud Radio.
Sleep.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, dans tous mes états, mais je ne suis pas seul. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville dans le gouvernement Attal, elle aussi, elle est dans tous ses états. Pourquoi ? Écoutez.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Ah, c'est mou. On cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable.
Ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Alors, c'est qui aujourd'hui? C'est qui ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal? Écoutez l'entretien. Elle a été reçue mardi, hier, Sabrina Agresti-Roubache, sur France 2, aux Quatre Vérités. Écoutez ce qu'elle disait, c'était à propos effectivement de l'insertion. Vous savez, on en a parlé hier, Gabriel Attal était à Nice, effectivement, avec Dupond-Moretti. Alors voilà, les parents, les enfants, l'insertion, les difficultés en milieu scolaire, les internats, les projets d'internat et tout cela. Très intéressant, bien sûr. Et puis à un moment donné, on a parlé d'autre chose dans cet entretien. Écoutez.
Je pense que les jeunes de maintenant, vous savez, on aurait été les mêmes jeunes si on avait eu les mêmes outils qu'eux. Penser que nous, à notre époque, on aurait été mieux ou qu'on était mieux, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, je reviens sur les réseaux sociaux, cette arme de destruction massive...
Rapidement, j'ai une dernière question à vous poser.
Bien sûr. C'est que les parents sont les premiers à pouvoir agir sur les réseaux sociaux avec leurs enfants. Donc leur dire, vous avez le droit de prendre le téléphone, de mettre les contrôles parentaux, et déjà c'est une base. Et vous avez le droit de les interdire.
Quand vous voyez TikTok qui veut rémunérer les gens qui regardent les vidéos?
C'est un scandale. Enfin, écoutez, les réseaux sociaux, si vous me demandiez, par exemple, si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître les réseaux sociaux.
Et voilà où on en est, c'est toujours très intéressant. Eh ben, si j'avais une baguette magique, étant donné qu'il y a beaucoup de fièvre actuellement dans le royaume, eh bien, je supprimerais, j'éradiquerais les thermomètres. Allez, tout de suite. Voilà, c'est pas possible, effectivement, les réseaux sociaux, faut supprimer. C'était tellement bien avant, quand on avait la vérité révélée, par les médias révélés, par les gens, effectivement, qui avaient le droit de parler. Et là, cette parole sauvage, effectivement, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut rappeler à Madame Agresti-Roubache et à tous les autres que les réseaux sociaux, c'est évidemment la langue de Zop, comme toujours, le meilleur et le pire. Ça charrie le meilleur et le pire. Mais vous croyez que c'est en masquant la chose, c'est en faisant semblant que ça n'existe pas, que ça réglerait le problème? Non, absolument pas. Les lois sont là pour sanctionner les appels à la haine. Les lois sont là, et puis que la famille aussi s'occupe, effectivement, les parents s'occupent des enfants, etc., etc. Il y a à voir que effectivement, ça dépend de qui qu'un gosse de 7 ans, 8 ans, 10 ans n'ait pas déjà son portable, etc. Ça dépend de qui. Évidemment, il faut un peu de discipline. Mais supprimer les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que c'est croire qu'effectivement, on va supprimer la technologie, on va revenir aux lampes à huile de l'information. Mais non. Non, parce que la déformation, l'information et les appels à la haine... Vous croyez, Sabrina Agresti-Roubache, que ça vient des réseaux sociaux? Les grands massacres du XXe siècle, elles viennent des réseaux sociaux? Les harcèlements, l'appel au racisme, l'appel à la haine, ils viennent des réseaux sociaux? Allons. Essayons d'être un peu plus, beaucoup plus, choisissons un peu les choses, soyons un peu plus sélectifs et soyons surtout avec de véritables... on sait très bien ce qu'il faut faire sur les sanctions, on sait très bien ce qu'il faut faire sur l'application des lois, on sait très bien ce qu'il faut faire sur un certain courage à avoir pour effectivement ceux qui sèment la pagaille, ceux qui sèment le vent aujourd'hui ne récoltent plus la tempête parce qu'il n'y a plus personne pour leur faire face. Il est là là le problème, Madame la secrétaire d'État. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans les réseaux sociaux, encore une fois. N'accusez pas les témoins du meilleur et du pire. Ce n'est pas en supprimant le témoin que vous arrangerez la situation, encore une fois, avec ou sans baguette magique.
On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Après les infos de 13h, on sera pour le face-à-face avec André Bercoff qui recevra Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. A tout de suite sur Sud Radio et bien sûr 0826-300-300. A tout de suite.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Sud Radio 7.
104.9.
Sud Radio.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Des petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tôt le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Hop, 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 hop. On ne fait jamais le tour de France. Hop, 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 hop. J'aime tes petites places, Ricard et puis pétanque. Soir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Pa-pa-la-pa, pa-pa-la-pa. On ne fait jamais. Sans chez soi, un petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France. Pa-pa-la-pa, pa-pa-la-pa. On ne fait jamais le tour de France. Pa-pa-la-pa, pa-pa-la-pa.
Sud Radio.
Sud Radio.
With his same old same.